Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à participer à ce colloque dont le thème est l'intégration ou le développement de systèmes intégrés. Et je voudrais en quelques diapositives vous parler de la dernière étape du développement des médicaments, car là où on en est, le produit a une forme pharmaceutique, une forme galénique utilisable in vivo, a démontré son efficacité dans des modèles expérimentaux vitro et vivo. Il faut ensuite conduire un large programme de toxicologie pour démontrer si oui ou non il y a une certaine sécurité à entrer le produit en développement clinique. Et puis une décision va être prise d'entrer ou non ce produit en développement clinique. Mais la molécule n'est toujours pas un médicament et un grand nombre des molécules qui entrent en développement clinique ne deviennent pas un médicament commercialisé. Pourquoi ? Parce que l'objectif du développement clinique a d'une part, a d'une part pour objectif de démontrer qu'il y a un effet, l'effet attendu chez les patients, de démontrer la sécurité d'emploi chez les patients afin d'établir ce qu'on appelle le bénéfice-risque, ce que le produit devenu médicament apportera au patient malade versus le risque que le patient aura à le prendre. Et ceci nécessite un développement clinique depuis les phases précoces jusqu'aux phases tardives qui nécessite des dizaines et des centaines et des milliers de patients pour aboutir à un dossier soumis à une agence réglementaire qui donnera une autorisation de commercialisation. Donc nous ne sommes pas toujours à la phase de médicaments, nous entrons en clinique et ce que je voudrais vous montrer dans les quelques diapositives, c'est que l'évolution des produits qui sont développés, designés, évalués en préclinique avec les biotechnologies sont en train de modifier de façon profonde la façon dont on évalue ces médicaments en clinique humaine avec des enjeux à la fois médicaux, scientifiques, sociétaux et économiques. Alors juste en préambule, j'ai repris cette diapositive des entreprises du médicament, le LEM, qui a illustré au travers d'une enquête que l'introduction des biomédicaments, ces médicaments nouveaux issus des biotechnologies, était en phase de croissance exponentielle puisque en 2004, 90 produits avaient été introduits sur le marché français issus de ces biotechnologies avec une prédiction de plus de 200 molécules de cette nature dans les années 2009. Et ces produits nouveaux sont clairement des nouvelles entités issues des biotechnologies avec des mécanismes d'action innovants qui posent des questions et des défis en termes technologiques, bien sûr, en termes de production, des défis cliniques et qui posent la question comment développer au mieux, de façon efficace, rapide et le moins cher possible, ces produits en clinique. Alors je voudrais prendre un exemple, celui de l'oncologie, que je connais plus particulièrement, afin de vous illustrer au travers de quelques thèmes les difficultés, les enjeux et puis les aspects tout à fait innovants que ces nouvelles molécules sont en train de nous apporter en changeant de façon profonde notre développement clinique. En effet, je suis pédiatre, oncologue et pharmacologue, je m'occupe de développement de médicaments et je suis à cette interface entre la préclinique, le laboratoire et la clinique innovante. Alors juste pour rappeler comment au XIXe siècle on développait des médicaments, il faut prendre conscience qu'à l'heure actuelle, dans cette analyse, cette étude de l'Association des pharmaciens américains, il y a près de 400 médicaments en développement clinique. 400 médicaments en 2005 en développement clinique pour traiter le cancer, et ceci aux États-Unis par près de 200 industries pharmaceutiques, petites boîtes de biotechnologie qui sont réellement les compagnies qui font de l'innovation, et aussi le National Cancer Institute qui a un programme in situ de développement des nouveaux médicaments. Et comme vous le voyez sur la diapositive suivante, ces médicaments concernent toutes les pathologies cancéreuses, depuis les plus fréquentes comme le sein, le côlon, le poumon, la prostate, jusqu'aux plus rares comme les pathologies des os, les pathologies des muscles et les pathologies de l'enfant. Alors, au XXe siècle, au siècle dernier, comment on faisait du drug discovery, de médicaments anticancéreux, pour en faire des médicaments à usage humain? D'abord, la plus souvent, ils étaient issus de plantes, de la synthèse chimique ou d'autres origines, par extraction de molécules, de substances dont on ne connaissait pas les capacités anticancéreuses. Et ces différentes substances étaient criblées sur des modèles expérimentaux in vitro, le plus souvent des lignées anticancéreuses, pour savoir si, oui ou non, elles possédaient soit une activité cytotoxique, tuer les cellules, soit une activité cytostatique, empêcher de proliférer. Donc on est bien dans des molécules inconnues, extraites du fond des mers, extraites de la canopée, ou synthétisées par des chimistes, éventuellement en envisageant des cibles potentielles, et criblées de façon systématique sur des grands panels de lignées. Une fois démontrée l'activité in vitro, les molécules étaient passées in vivo dans des modèles expérimentaux parce que ce qui se passe dans la boîte de Pétri n'est pas ce qui se passe chez la souris, n'est pas ce qui se passe chez l'homme. Et si la substance démontrait une activité dans des tumeurs de souris ou même dans des tumeurs humaines greffées chez des animaux immunodéprimés, la molécule entrait en phase 1, c'est-à-dire première administration à l'homme, dont l'objectif était de trouver la dose maximale tolérée. Pourquoi ? Parce que tous ces médicaments sont utilisés à la plus haute dose non toxique. En effet, ces médicaments sont certes capables de tuer des cellules malignes, mais ils ont aussi une capacité à tuer des cellules saines. Il n'y a pas de spécificité absolue pour la cellule maligne de la plupart de ces médicaments. Et donc les premières phases du développement chez l'homme avaient pour objectif de définir la plus haute dose qu'on pouvait administrer aux patients en observant une toxicité qu'on considérait comme acceptable. Une fois ces doses définies, le médicament entrait en phase 2, là où réellement on évaluait son effet en mesurant la tumeur chez des patients qui recevaient la dose recommandée par les essais de phase 1. Dans la suite du développement, on peut considérer que des milliers de molécules entraient en criblage et seulement des dizaines pouvaient entrer en phase 1 pour seulement quelques-unes enregistrées à l'arrivée. Donc une perte en termes de nombre de molécules qui se compte en logarithmes. La suite du développement incluait des essais de phase 3, c'est-à-dire grande population de patients à qui on proposait par tirage au sort soit le nouveau médicament, soit le traitement standard. Le plus souvent en situation avancée, c'est-à-dire chez des patients qui avaient une maladie très avancée dans son développement, éventuellement métastatique, pour aboutir à un enregistrement auprès des autorités de santé. Et une fois que le médicament était enregistré, les firmes continuaient leur développement en proposant la molécule devenue médicament à des patients ayant une maladie moins avancée. Donc vous voyez un process de développement très long qui était dans la stratégie que je vous décrivais du XXe siècle, focalisée autour de ce qu'on appelle les Big Four, c'est-à-dire les quatre cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme, le sein, le côlon, le poumon, la prostate. Et les industriels avaient pour objectif d'essayer d'enregistrer leurs médicaments en les comparant aux molécules déjà enregistrées dans ces pathologies les plus fréquentes, pour avoir le marché le plus large en termes de retour sur investissement. Alors ceci a abouti à un certain nombre de médicaments qui sont actuellement utilisés. Et au cours des 10 dernières années, vous voyez cette liste de produits, le Taxol, le Taxotere issu du brevet de M. Potier, la capecitabine, l'irinotécan, l'oxaliplatine, dérivé du platine, qui sont devenus des médicaments utilisés au quotidien avec des effets pour des patients ayant des maladies malignes, fréquentes ou un peu plus rares. Au XXIe siècle, la stratégie de développement a complètement changé. Et dû à quoi ? D'abord, le séquençage du génome humain, les techniques à haut débit, génomique, protéomique, la bioinformatique, et la compréhension beaucoup plus avancée de la biologie des tumeurs, caractérisant les anomalies spécifiques au niveau génétique ou protéique du processus tumoral et ou du processus métastatique. Toute cette information biologique générant autant de cibles thérapeutiques potentielles, lesquelles cibles peuvent devenir des cibles de médicaments. Et donc, en fait, la stratégie de développement, comme les... Alors ça, je vous ai juste illustré juste par une image de génomique, où, par exemple, dans des mélanomes primitifs, on est capable, par une signature génomique sur des lames oligo-arrays pangéniques, d'identifier les tumeurs qui vont métastaser, des tumeurs qui ne vont pas métastaser. Vous voyez deux groupes, vous voyez une série de gènes. Eh bien, dans ces gènes, il y en a peut-être certains qui sont impliqués de façon si importante qu'en les inhibant, on peut inhiber le phénomène métastatique. Donc la génomique, la protéomique génèrent des nouvelles cibles potentielles. Et à partir de là, la stratégie a complètement changé. On part de la génomique, de la protéomique, du séquençage. On identifie la cible. On valide la cible, en particulier dans les systèmes biologiques, en utilisant les RNA, Small Interference RNA, dont a parlé Patrick Couvreur, pour réellement démontrer que la cible est importante sur le plan biologique pour une cellule maligne dans sa phase de croissance. À partir du moment où la cible est validée, on peut, dans des librairies chimiques ou par du drug design, par du développement de cette nature, sur des méthodes d'évaluation spécifiques, identifier quelques composés qui inhibent de façon spécifique la cible identifiée. Et donc, vous voyez, on part plus du composé en le screenant sur des cellules, on part de la cible pour trouver un inhibiteur spécifique. Et une fois que l'inhibiteur spécifique est identifié, il peut à ce moment-là rentrer dans des tests in vitro pour vérifier si oui ou non inhiber la cible par cette molécule modifie le comportement de la cellule, soit en la tuant, soit en l'empêchant de proliférer. Il entre ensuite en développement préclinique in vivo. Pardon. Pourquoi ? Parce qu'on est bien toujours dans le même concept. Ce qui est vivo, vitro n'est pas vivo, n'est pas chez l'homme. Et enfin, s'il y a suffisamment d'arguments d'efficacité pour entrer en clinique humaine, eh bien, les premières phases de développement clinique chez le patient auront pour objectif de définir la dose optimale biologique dans ce qu'on a appelé des études de preuve du concept. Ce qui veut dire qu'on n'est plus en train de chercher la plus haute dose maximale qu'on peut administrer au patient, mais la dose optimale pour obtenir chez le patient l'effet biologique observé dans les modèles expérimentaux en pensant que ceci va aboutir à l'effet recherché. Voyez donc que la stratégie, la philosophie du développement a complètement changé. Et la chose extrêmement importante, c'est que cette phase initiale, elle est absolument stratégique. Parce que c'est à ce moment-là que l'industriel va vouloir le plus tôt possible arrêter le développement d'une molécule potentiellement inefficace. Et on assiste actuellement, alors qu'auparavant on allait de la souris à l'homme de façon linéaire, sans retour en arrière, eh bien on assiste dans ces phases très précoces du développement à des retours, des allers-retours entre les laboratoires qui font la préclinique, qui font la dynamique, qui font la biologie, éventuellement sur des modèles expérimentaux, et les cliniciens qui développent le médicament. Donc vous voyez une stratégie qui fait que ce lien entre préclinique et clinique devient absolument essentiel pour affiner au mieux les premières étapes afin de s'engager dans un développement plus efficace et potentiellement plus efficace pour aboutir à un nouveau médicament. La suite, elle est un peu identique. À partir du moment où la preuve de concept est établie, le médicament entre en phase 2, mesurer les effets. En phase 3, mesurer les effets dans des grandes populations, dans des études randomisées. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le fait qu'on part d'un événement biologique, eh bien, les pathologies qui sont développées ici ne sont plus tout à fait les mêmes que celles antérieurement envisagées par les industries pharmaceutiques. Ce sont celles qui portent l'anomalie. Et vous allez voir dans les quelques exemples que des médicaments très innovants, ont été designés, développés et enregistrés pour des pathologies rares. Et on voit donc l'émergence d'un profil totalement nouveau de médicaments, de par leur mécanisme d'action et de par les maladies qu'ils peuvent prendre en compte. Et le vrai enjeu actuellement, en termes de développement, parce que c'est long, parce que ça inclut beaucoup de patients et que c'est extrêmement cher, c'est de définir le plus précocement possible des biomarqueurs capables de prédire l'activité du produit et de sélectionner le plus tôt possible aussi les patients qui peuvent bénéficier du médicament. Car comme on va le voir, on peut avoir des médicaments dans le cancer du sein qui seront actifs dans une sous-population de cancer du sein qui exprime tel oncogène et non pas dans tous les cancers du sein. Donc vous voyez une approche beaucoup plus spécifique avec un enjeu majeur, prédire le plus tôt possible pour arrêter un développement d'une molécule inefficace et réellement aller plus loin avec des molécules potentiellement actives. Donc ces nouveaux médicaments du 21e siècle, si vous me permettez cette expression, ils ont des mécanismes d'action complètement différents des précédents. Donc on a vraiment un nouvel arsenal thérapeutique qu'on est en train d'introduire auprès des cliniciens pour traiter les patients. Ils sont volontiers actifs dans des sous-populations de maladies, comme je vous l'expliquais, pas tous les cancers du sein, mais certains d'entre eux. Ils peuvent nécessiter un diagnostic moléculaire, c'est-à-dire définir la présence de l'anomalie dans la tumeur du patient pour lui prescrire le médicament. Ils ont des toxicités différentes, parce que ce ne sont pas les mêmes organes qui sont touchés. Et puis surtout, c'est en train de changer profondément le traitement des cancers, parce que beaucoup de ces médicaments sont administrés par voie orale. Donc vous voyez, une nouvelle approche de développement de nouveaux médicaments, fondée sur la génomique, la protéomique, les analyses à haut débit, qui change le profil des médicaments développés pour les cancers humains. Alors, le vrai enjeu, comme je le disais, pour les industriels, c'est tuer les drogues inefficaces le plus tôt possible. Et quand vous discutez avec eux, c'est exactement ça, dans les phases précoces. Ils veulent vraiment, à coup sûr, s'arrêter pour une molécule qui n'aura pas d'effet. C'est bien sûr développer des critères pharmacodynamiques d'efficacité, je vous en donnerai quelques exemples. Et puis c'est aussi introduire des nouvelles méthodologies, parce que les méthodologies d'essai, qui étaient celles du XXe siècle, ne sont plus totalement adaptées à ces nouveaux médicaments. Alors, il y a d'ores et déjà, depuis 4-5 ans, des molécules innovantes, des anticorps monoclonaux, des petites molécules, IRESA, Tarceva, Erbitux, dont on va voir qu'ils ciblent principalement la voie de transduction du signal. Il y a même, depuis maintenant 2 ans, des médicaments anti-angiogènes. C'est une approche totalement innovante. Depuis longtemps, on savait que l'angiogénèse a un rôle majeur dans le développement des tumeurs, mais aucun médicament n'avait été ciblé sur cette part de la tumeur. Eh bien, depuis 2 ans, il y a l'Avastin dans le traitement des cancers du côlon, et puis cette année, le Nexavar dans le traitement du cancer du rein. Alors, au travers de quelques exemples, je voudrais vous illustrer, pour certaines de ces molécules, les questions, les problèmes, les particularités et les enjeux qui sont actuellement ceux du développement clinique. Alors, les voies de transduction du signal, dans ce cartoon dont vous m'excuserez la grande simplicité, juste pour rappeler qu'il s'agit bien de récepteurs tyrosine kinase transmembranaires dans la membrane cytoplasmique, des cellules normales et des cellules malignes, qui après homo-hétérodimisation consécutive à la liaison du ligand avec le récepteur, entraîne la transduction d'un message au travers d'une cascade d'événements biologiques intracytoplasmiques, aboutissant soit à une activation de la transcription et de la prolifération, soit à une inhibition de l'apoptose. Et on sait maintenant que ces voies de transduction du signal sont anormales dans un grand nombre de cancers humains, par mutation, amplification, modification de la cible ou modification de la cascade d'aval, faisant en sorte que la cellule maligne est dans une forme de maladie de la communication avec son environnement. Et bien, ceci est une voie très richement ou très activement explorée de cibles thérapeutiques et de nouveaux médicaments. En particulier, il y a les toutes petites molécules, comme par exemple le Glivec, qui vont inhiber le récepteur tyrosine kinase au niveau de son site d'action intracytoplasmique au niveau de la fixation de l'ATP, et puis des anticorps monoclonaux qui vont reconnaître la partie extramembranaire, comme par exemple l'herceptine, et qui vont également altérer la transduction du signal dans les tumeurs qui ont des anomalies de cette voie. Alors, ce que je voudrais vous montrer au travers de quelques exemples, c'est les particularités du développement de ces médicaments innovants, plus ciblés, plus fondés sur la biologie des tumeurs. Le premier, c'est le Glivec ou imatinib, dont vous avez entendu parler. C'est un traitement majeur dans le cadre des leucémies myéloïdes chroniques. Et la caractéristique, c'est que le développement clinique a été extrêmement rapide, extrêmement ciblé, et que le médicament a été enregistré dans des maladies rares, par opposition à ce que je vous décrivais de ce qui se passait au XXe siècle, sein, poumon, colon, prostate. En effet, c'est la leucémie myéloïde chronique, ce sont les gystes, et ce sont quelques pathologies rares de type cutané. En quelques mots, vous savez, la translocation BCR-Abelson, caractéristique de ces leucémies myéloïdes chroniques. En fait, la partie Abelson est une tyrosine kinase, qui entraîne au niveau de la cellule un certain nombre de modifications participant au phénotype de leucémie myéloïde chronique. Eh bien, le Glivec est un inhibiteur qui agit au niveau du site d'action, entrant dans la poche, empêchant la fixation de l'ATP et donc aboutissant à une lyse des cellules exprimant cette translocation. Et ce médicament a réellement transformé l'approche du traitement de ces patients, puisque cette diapositive vous montre que la rémission cytogénétique dans cette étude randomisée, où les patients recevaient soit de la chimiothérapie, soit le médicament imatinib tout seul, montrait de façon très significative combien le Glivec était un produit spécifique et actif dans les cellules myéloïdes de leucémie myéloïde chronique exprimant le chromosome Philadelphie. Donc un médicament qui a été développé dans une indication, tous les patients avaient des maladies qui avaient l'altération et le produit s'est révélé remarquablement efficace. Le produit a ensuite été développé dans d'autres, parce que, par exemple, certaines tumeurs très rares du tube digestif, appelées GIST, pour gastro-intestinal tumor, sont en fait des tumeurs qui ont une mutation du récepteur c-KIT et qui, comme vous le montre cette diapositive en immunohistochimie, expriment de façon extrêmement importante ce récepteur muté et se sont révélées très sensibles au Glivec. Donc un médicament ciblé, développé dans des maladies ayant des anomalies spécifiques concernant ce médicament et des maladies qui sont rares. Donc le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est celui des inhibiteurs de GFR, dont on va voir que le développement a été totalement différent et a posé un certain nombre de questions. En effet, il a été long, il a été non ciblé, Et les industriels se sont heurtés à un certain nombre de difficultés. Alors, pour reprendre brièvement l'histoire de GFR, dans les années 50, Rita Levi et Montalcini ont découvert le Nernst Growth Factor. Dans les années 62, Stanley et Cohen ont découvert le facteur de croissance épidermique. Puis, un peu plus tard, son récepteur, EGFR. Et c'est dans les années 80 qu'on a mis en évidence l'activité tyrosine kinase de ce récepteur. Cette activité tyrosine kinase était dérégulée dans le cancer, surexprimée ou amplifiée dans des tumeurs épithéliales, avec des boucles autocrines impliquant TGF-bêta et un certain nombre de mutations homologues de certains oncogènes, en particulier VRBB. Et d'ailleurs, c'est en 86 que les deux équipes de Stanley Cohen, Rita Levi et Montalcini ont obtenu le prix Nobel pour ces découvertes. C'est en 83 que les premiers anticorps spécifiques du récepteur ont été développés par Mendelssohn. C'est le fameux anticorps monoclonal 225, qui ensuite a été associé avec le fait qu'il y avait des mutations dans la poche de binding de l'ATP qui modifiaient l'activité tyrosine kinase. Donc clairement, il y avait des situations où cette activité tyrosine kinase était modifiée, aboutissant un peu plus tard, si ça apparaît sur la diapositive, à recherche de certaines molécules, en particulier des kinazolines, capables d'inhiber cette tyrosine kinase, et parmi celles-ci, une petite molécule, gefitinib, issue de ce screening de molécules inhibant EGFR, gefitinib, développé par le laboratoire AstraZeneca. Et c'est en 2002, vous voyez, 96-2002, que le médicament a été enregistré au Japon, aux États-Unis, tandis que l'anticorps monoclonal initialement développé a fini par devenir un médicament en 2003. Et en 2004, des analogues du gefitinib développés par une autre firme pharmaceutique en 2005 ont été enregistrés. Donc vous voyez que cette découverte des années 60 d'un événement biologique majeur, devenu ensuite un événement biologique majeur dans les cancers, eh bien a mis près de 40 ans pour devenir cible d'un médicament efficace utilisé pour les patients. Ce qui veut dire que le vrai enjeu maintenant, puisque ce concept c'est bien j'ai une cible, je fais un médicament et ça traite les patients, le vrai enjeu c'est d'accélérer, de raccourcir ce temps de développement entre la découverte d'équipes de biologistes et l'enregistrement d'un médicament pour traiter les patients. Le deuxième problème qui a été celui de cette molécule est le suivant. À peu près, développé dans le cancer du poumon, il est présent, puisque 40 à 80% des tumeurs expriment le récepteur. Mais dans les résultats des études de phase 2 initiales, où on regarde la diminution de la tumeur chez des patients recevant le médicament, les taux de réponse étaient faibles, 9 à 19%. Et il n'y avait pas du tout de corrélation entre la réponse de la tumeur au traitement chez le patient et l'expression du récepteur par la tumeur du patient. Et du coup, ils ont essayé de développer en association ce médicament pour démontrer que inhiber EGFR avec une chimiothérapie classique permettait d'augmenter, de potentialiser l'effet du traitement et d'augmenter la probabilité de survie des patients. Et clairement, ça a été un gros investissement. Je vous prends là un exemple d'un essai qui a inclus près de 1000 patients, il y en avait plusieurs comme ça, où ils recevaient par tirage au sort soit de la chimiothérapie, soit de la chimiothérapie plus le médicament. Et vous voyez que de façon totalement claire, il n'y avait aucun effet du médicament à deux doses. Donc, des données précliniques et cliniques initiales montrant que le produit avait une efficacité potentielle, mais des résultats de grandes études randomisées incluant de très nombreux patients montrant une efficacité claire du produit. Ce qui est un enjeu majeur, à la fois pour les patients qui ont participé à cette étude d'un médicament inefficace, mais aussi pour l'industriel qui a investi de façon très importante dans un produit qui n'est pas commercialisé. Eh bien, il a fallu attendre 2004, dans ce papier paru dans le New England, par une équipe de Lunch, pour mettre en évidence le fait que des mutations du récepteur dans la poche de liaison de l'ATP expliquaient la réponse au traitement par IRESA, démontrant que ce n'était pas l'expression du récepteur qui était importante, mais la présence d'une mutation dans ce récepteur liée de façon significative à l'efficacité du produit. Ce qui veut dire que ce n'est pas tous les cancers du poumon qui peuvent bénéficier de ces approches, mais seulement une partie d'entre eux. D'où la question majeure pour les développements futurs, faut-il développer les médicaments dans toute la pathologie sans regarder la biologie de la tumeur, ou faut-il focaliser les développements de ces médicaments pour des patients qui ont des tumeurs qui expriment les anomalies? Et IRESA a été un très bon exemple de la problématique de ces développements ciblés de médicaments ciblés. Le dernier exemple que je voudrais prendre aujourd'hui, c'est le sorafenib, exemple de développement non ciblé et surtout de l'intérêt des marqueurs précoces de réponse. Juste pour cibler ce qu'est justement ce sorafenib, je vous ai décrit la voie de transduction du signal, je vous ai décrit un certain nombre de médicaments qui altèrent, qui ciblent une seule protéine. Eh bien, beaucoup de firmes pharmaceutiques, des petites et des grosses, développent des médicaments multicibles. Et c'est le cas de ce produit qui s'appelle sorafenib et qui inhibe VEGFR, récepteur au facteur de croissance de vasculaire des vaisseaux, PDGFR, récepteur de croissance facteur dérivé des plaquettes, et le gène RAF. Et donc vous voyez que l'objectif, c'est qu'en altérant plusieurs parties du pathway, de potentialiser l'effet du médicament. Alors si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'il a été développé en phase 1, en phase 2, et puis une grande étude randomisée a comparé chez des patients qui avaient un cancer du rein métastatique, le sorafenib à pas de traitement. Approche randomisée classique, et a montré de façon significative que les patients qui recevaient le médicament bénéficiaient en termes de survie sans progression du médicament par rapport à ceux qui ne recevaient pas le médicament, démontrant l'effet du patient, l'effet du traitement chez ces patients ayant une maladie avancée. Mais ce qui est intéressant, c'est que habituellement, quand on évalue les médicaments, on regarde, on fait des images des tumeurs et on voit leur évolution en termes de taille. Et voici deux exemples de deux patients. Vous reconnaissez un scanner en coupe transversale avec la vertèbre, le foie et la tumeur rénale, ici, chez un patient qui, vous voyez, ne bouge pas du tout en termes de taille de tumeur, et ce patient, une tumeur rénale qui repousse le foie, qui ne bouge pas non plus du tout en termes de taille. Donc une difficulté à prédire par évolution de la taille de la tumeur, le fait que les patients répondent ou non en termes de non-progression. Et à l'Institut Gustave Roussy, l'équipe de Nathalie Lasso a essayé d'explorer par échodoppler, avec des produits de contraste spécifiques, s'il était possible d'identifier précocement les patients ou non qui allaient répondre au traitement. Et elle a très élégamment montré que chez ces deux patients qui, avant traitement, ont une tumeur qui prend l'écho, qui est échogène en échodoppler avec produit de contraste, eh bien, certains patients comme celui-ci n'avaient aucune modification après 3 semaines de traitement, tandis qu'un autre qui n'avait pas de modification de la taille de sa tumeur voyait de façon très significative des modifications de son échostructure, témoignant d'un effet antivasculaire du médicament. Et elle a pu démontrer ainsi dans cette population que l'effet en imagerie, voilà, c'est apparu, permettait de différencier de façon très significative ceux qui ne vont pas répondre au traitement en termes de survie et de progression de ceux qui vont répondre au traitement. Et vous voyez là que c'est un enjeu tout à fait important parce que c'est définir très tôt, grâce à des imageries performantes, des marqueurs d'efficacité du traitement, ce qui permet, en termes de proposition du médicament au patient, de le réserver à ceux qui vont en bénéficier. Ce qui évite de donner le médicament à ceux qui ne vont pas en bénéficier et ce qui, en termes de coût pour la société, est tout à fait significatif. Donc cet exemple du sorafenib qui montre combien les innovations en termes de développement de médicaments sont importantes et que les industriels et les petites boîtes sont en train de faire des multi-cibles illustre le fait de la nécessité et de la possibilité d'avoir des marqueurs précoces de l'efficacité du produit permettant de mieux cibler les patients qui peuvent en bénéficier. Donc en conclusion, beaucoup de molécules et des molécules de plus en plus nombreuses en termes de développement. La vraie question, c'est comment prédire l'efficacité et comment accélérer les développements, comment accélérer le passage de la préclinique à l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a les patients qui attendent, qui lisent la presse et qui attendent des médicaments efficaces. Le rôle majeur des biomarqueurs biologiques et de l'imagerie, la nécessité de nouvelles méthodologies et puis surtout l'évolution des mentalités au niveau réglementaire parce qu'on aborde des domaines totalement nouveaux. Ce qui veut dire au total, en termes d'intégration, il y a une vraie nécessité à créer des centres intégrés où le lien entre recherche et clinique est effectif, opérationnel, avec des allers-retours pour les étapes précoces du développement, avec suffisamment de patients et des plateformes technologiques pour être capable de faire du séquençage, de la protéomique, de la génomique dans ces essais très précoces. C'est bien sûr aussi s'assurer de la visibilité et de l'attractivité pour des industriels, parce qu'il y a un vrai enjeu de faire en sorte que ces molécules viennent en France, en Europe certainement, mais en France aussi pour du développement, alors qu'elles ont tendance à rester aux États-Unis par les industriels qui les développent. C'est dire que l'Université Paris-Sud est un vrai pôle d'excellence en cancérologie, où il y a tous les éléments, depuis le très fondamental jusqu'au très clinique, et par une approche plus intégrée, plus coordonnée, permettrait certainement d'avoir une visibilité au niveau mondial dans le développement des nouveaux médicaments en cancérologie. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre attention.